Bien, bonjour à tous. Donc, je vous remercie de votre présence et je suis donc heureux d'accueillir donc Claude Gauthier, donc professeur à l'université de Montpellier 3, auteur donc d'un ouvrage intitulé « La force du social, enquête philosophique sur la sociologie des pratiques » de Pierre Bourdieu, paru donc aux éditions du Cerf, spécialiste également donc de la pensée de David Hume. Et cet ouvrage donc, s'inscrit dans un contexte éditorial particulièrement important sur la pensée de Bourdieu, puisque récemment a été publié également un cours au Collège de France sur l'état de Bourdieu, particulièrement important. Alors donc, on va présenter donc je vais présenter l'ouvrage de Claude Gauthier, donc en vous posant quelques questions à mesure donc que j'aborderai donc tel ou tel thème de votre ouvrage. Après quoi donc vous pourrez intervenir donc sur le format que vous souhaitez, et après donc nous laisserons donc le temps libre pour des questions donc sur les thèmes abordés. Donc au début du chapitre 2 des méditations pascaliennes, Pierre Bourdieu écrit que tout son travail sur les pratiques sociales consiste à essayer de mener jusqu'au bout, dit-il, l'analyse que les plus intrépides des philosophes arrêtent souvent en chemin, c'est-à-dire au moment où elles rencontreraient le social. Votre ouvrage, qui mentionne à plusieurs reprises cet énoncé de Bourdieu, cherche, me semble-t-il, précisément à cerner les modalités de cette rencontre avec le social. Plusieurs questions peuvent alors être posées. Premier groupe de questions, on pourrait se demander pourquoi les philosophes sont-ils, même les plus intrépides, dit Bourdieu, enclins à s'arrêter en chemin, voire à rebrousser chemin devant le social. En quoi est-ce pour eux une réalité à ce point déconcertante ou compromettante? Ou dit autrement encore, que risquent-ils à éviter ou à dénier cette réalité, lors même parfois qu'ils la frôlent? Et qu'a-t-on à gagner, à parier pour une rencontre avec le social, sinon peut-être à produire, comme le souligne Bourdieu à propos de sa propre démarche, une philosophie négative exposée à paraître autodestructrice. Citation des méditations pascaliennes. Deuxième groupe de questions qu'on pourrait poser à cet énoncé. En quoi le social fait-il l'objet d'une rencontre? N'est-il pas plutôt le continuum ou le tissage, pour reprendre une image platonicienne, qui a une longue fortune, voire aujourd'hui l'expression de tissu social, le tissage de nos pratiques, le tissu de nos pratiques, c'est-à-dire ce qui nous précède toujours déjà, ou ce qu'à force de rencontrer toujours et régulièrement, nous finissons par ne plus rencontrer jamais, si tant est qu'il y a dans l'idée de rencontre une dimension, sinon d'imprévu, du moins d'événementialité. Ou pour reprendre un terme dont vous faites un concept, à part entière dans votre ouvrage, une dimension de discontinuité. En un sens, c'est une épineuse question ontologique sur le mode d'existence du social qui se trame à travers cette idée de rencontre. Précisément, il me semble que la force de ce motif de la rencontre empêche de dénouer trop rapidement cette question ontologique sur le mode d'être du social, du côté d'une part d'une thèse naturaliste ou organiciste, qui ferait du social un donné, une totalité fétichisée, ou du côté, d'autre part, d'une thèse constructiviste ou constructionniste, fort en vogue aujourd'hui, où le social ne serait pas un donné, mais un pur construit, qui n'apparaîtrait qu'à la faveur des discours, des textes que nous produisons à son égard. D'où, du même coup, la question pertinente posée par Jana King, la construction sociale de quoi, si on pose cette question. Votre ouvrage se situe, me semble-t-il, à rebours de cette alternative entre le social comme donné ou le social comme construit. Précisément, dans la décision théorique qu'il prend de lire chez Bourdieu une ontologie sociale qui ne décide pas par avance que nous trouvons le social comme un donné pris dans sa dimension ordinaire comme allant de soi, qui ne décide pas par avance non plus que nous le construisons de toutes pièces à la faveur de nos gestes ou de nos discours. La société, dit Jean-Paul Sartre dans La critique de la raison dialectique, paraît de loin tenir toute seule. De près, elle est criblée de trous. Or, tout l'enjeu d'une ontologie sociale, me semble-t-il, c'est précisément d'instituer la bonne distance. Et cette thématique de la distance est fondamentale dans votre ouvrage. Ne pas se tenir ni trop loin, auquel cas on ne voit plus la société que sous la forme d'une totalité déjà faite, qu'on y projette, comme un tout déjà achevé, ni non plus trop près, auquel cas on perd la consistance propre du social pour ne plus y voir que ces parties qui nous apparaissent, pour reprendre la métaphore sartrienne, comme autant de trous par lesquels le social fuit et s'échappe à lui-même. Pour ne plus y voir donc que des pratiques qui, ramenées à leur facticité même, nous paraîtraient dénuées de sens et de cohérence, c'est-à-dire précisément de consistance sociale. L'ontologie sociale que vous mentionnez indique un horizon d'intelligibilité des pratiques qui n'outrepasse pas le plan des pratiques ou qui n'outrepasse pas, pour reprendre une expression bourdieusienne, l'économie généralisée des pratiques, ce lieu de pertinence, ce lieu de validité, en un sens, de l'ontologie elle-même. Cette assumption ontologique, pour reprendre votre formule, que vous découplez de toute proposition métaphysique sur le social, qui prendrait le social comme une substance, permet de rendre compte du fait que nos manières de rendre raison ou de parler de l'expérience sociale impliquent le fait qu'il y a en elle de la force, qu'il y a dans cette expérience de la force, qu'il y a de la domination, qu'il y a de la discontinuité. Et c'est ce « il y a » dont il s'agit de rendre compte. Ce « il y a de la force » n'est pas une improbable substance tapis derrière les phénomènes et qu'il reviendrait à un sociologue roi, pour reprendre l'expression polémique de Rancière, de dévoiler aux agents. À quoi on pourrait opposer les comptes rendus ordinaires que les agents font de leur propre pratique, comme dans la perspective, par exemple, de l'ethnométhodologie de Garfinkel. Sur ce point, votre ouvrage défend clairement Bourdieu contre certaines critiques qui lui ont été faites, récemment notamment par Luc Boltanski, qui consisterait donc à reprocher à Bourdieu de confisquer la représentation du social aux agents en leur déniant toute véritable compétence en la matière et en présupposant sur le social des entités métaphysiques, telles la domination ou précisément la force. Des entités métaphysiques, donc, que le sociologue présupposerait sur l'expérience sociale contre l'expérience ordinaire des agents et qui serait suspecté d'être peu en phase avec cette expérience elle-même. Or, précisément, en donnant tout crédit aux acteurs, en donnant tout crédit à la trame de l'ordinaire, on court néanmoins le risque de s'arrêter en chemin devant la rencontre du social en décidant trop vite qu'on sait à quoi s'en tenir à ce sujet, le social n'étant alors rien d'autre que ce que les acteurs en disent ou ce que les acteurs en confirment dans sa qualité de données, avec peut-être différents formats d'épreuves, comme c'est le cas chez Boltanski notamment. Aller jusqu'au bout, jusqu'à la rencontre effective avec le social, cela implique alors de se départir de toute mystification du donné ou du social comme allant de soi, ce qui passe par une redéfinition épistémologique d'un concept essentiellement contesté, comme vous le dites, d'un concept tombé en désuétude après toute une tradition marquée par le positivisme conscient. Le concept de force, précisément, la force du social. Après tout, c'est peut-être une démarche propre aux sciences humaines que de réinvestir de vieux concepts en leur redonnant du sang neuf. N'est-ce pas ainsi, par exemple, qu'avait procédé Lévi-Strauss dans La pensée sauvage, en redonnant droit de cité au concept de sauvage, précisément sans s'arrêter en chemin, avec le concept de primitif, qui avait précisément supplanté ce concept au moment de l'émergence du savoir ethnologique. Réinvestir le concept de force, pour Bourdieu, cela impliquerait alors de faire voir que le mode d'être de la force n'est pas substantiel, mais bien relationnel, consistant en rapport de force. Qu'en un sens, donc, c'est un concept adéquat au réel. Et Bourdieu dit lui-même, d'ailleurs, le réel est relationnel. Alors, je vous poserai une première question sur ce concept de force, qui consisterait à se demander pourquoi le choix de ce concept de force, de préférence à celui plus connu, par exemple, mais peut-être moins opératoire, de domination, que vous mentionnez à plusieurs reprises dans votre ouvrage, mais qui occupe une moindre place, ou à celui, pour le coup peu présent dans votre livre, de violence, et en particulier de violence symbolique. Est-ce que la force est un meilleur analyseur? Et est-ce uniquement le parti pris de l'ontologie qui explique ce choix?
Tout d'abord, merci pour cette première présentation très claire et très, très convaincante. Alors, je vais essayer de répondre à cette première question qui est assez difficile, parce que j'aurais tendance à penser que si effectivement le concept de domination est moins présent dans mon texte, il y est quand même assez présent comme une modalité de la force. C'est-à-dire qu'au fond, je crois que raisonner en termes de domination, ce n'est pas quelque chose qui est fondamentalement différent que de raisonner en termes de force. C'est simplement que le concept de domination se trouve impliqué dans des applications empiriques un peu particulières. Il est clair que le concept de violence symbolique est très peu présent dans le travail que j'ai fait. Et je dirais qu'il y a une raison un peu circonstancielle à cette absence, qui est simplement que mon ambition, lorsque j'ai conçu ce livre, était quand même d'essayer de présenter un peu une approche systématique et du point de vue des principes de la pensée du monde social de Pierre Bourdieu. Et que donc la théorie de la violence symbolique est quelque chose qui occupe une place de plus en plus importante dans son œuvre, même si on repère déjà dès les premiers grands textes la présence de ce concept, mais qu'il me paraissait pas déterminant pour comprendre les réquisites ontologiques, épistémologiques et méthodologiques sur lesquelles se construit en quelque sorte sa théorie du monde social. Donc je dirais qu'il y a quand même une raison de ce type qui fait que du coup j'ai été obligé de faire un certain nombre de choix, et ces choix étaient guidés en quelque sorte par l'architecture que je voulais donner à ma présentation générale du texte ou de ma lecture du texte de Bourdieu. Alors maintenant, j'en reviens peut-être au fond de la question, pourquoi le concept de force? Je dirais qu'il y a dans cette appellation quelque chose qui est à la fois très classique et en même temps comme une provocation. C'est-à-dire qu'effectivement, on a aujourd'hui dans tout un ensemble de domaines de la sociologie et des sciences humaines une sorte d'enfermement de la description dans un souci entomologiste de détail, de précision. Parler de la force, c'était évidemment indiquer le retour à un point de vue d'une certaine hauteur. Et de ce point de vue-là, c'était déjà une provocation. Mais il me semble que derrière cette provocation, il y a un geste très classique, et c'est un clin d'œil à ce geste très classique qui est, au fond, le geste que propose Durkheim lorsqu'il fonde la sociologie et qu'il constitue la possibilité de la sociologie sur cette représentation discontinuiste du passage de l'individuel au social. Et quelque part, la sociologie de Durkheim, qui est une sociologie de la contrainte, on peut parler de contrainte, on pourrait parler de force, c'est vrai que les caractérisations qu'il donne dans ses premiers grands textes du fait social tournent autour de cette notion de la contrainte, de l'extériorité, de la détermination, et que dans les textes tardifs, les formes élémentaires de la vie religieuse par exemple, la question de la force y est plus présente. Il me semble que cette question de la force, elle est à la fois ce qui exprime une décision ontologique fondamentale, qui est en même temps ce qui rend possible et pensable un discours scientifique sur le social, qui est de penser qu'entre l'individu et la société, il y a une césure, et que cette césure demande à être élucidée, demande à être décrite sous des formes et des auspices différents, mais malgré tout. Donc, ce choix du concept de force se situe déjà là. Il a une portée ontologique très, très grande parce qu'il situe d'emblée le projet théorique de Bourdieu dans un point de vue qui est celui d'un point de vue d'une certaine sociologie. Hein. Donc je pense que ça, c'est peut-être une première série de raisons qui justifie ce choix. Il me semble ensuite que une deuxième série de raisons pourrait se trouver dans le fait qu'à partir du moment où on accepte cette idée de la discontinuité, ce qui fait problème, c'est très précisément d'essayer de comprendre en quelle manière cette discontinuité est non pas surmontée, mais déclinée, conjuguée, modélisée. Et je crois que c'est autour de cette discontinuité, qui est désignée ici par ce concept de force, que prennent sens certaines de ces grandes catégories sociologiques, de l'habitus, des dispositions, etc., etc. Mais peut-être aurons-nous l'occasion d'en reparler. Voilà, il me semble que c'est un petit peu sur ces différents aspects que le choix de ce terme me semblait pertinent.
Alors d'ailleurs, c'est effectivement la transition que... Parce que vous montrez effectivement donc, que la force, comme rapport et discontinuité, constitue pour Bourdieu l'indication d'un problème qu'on peut énoncer à plusieurs niveaux. Vous distinguez justement plusieurs énoncés de la force dans votre ouvrage, qui constituent donc des chapitres. Tout d'abord, on peut dire qu'on peut énoncer la force à un niveau épistémologique, donc où vous mettez l'accent sur la résistance des faits sociaux aux philosophies spontanées qu'on peut s'en faire. Cette résistance tenant à la consistance propre du social, qui n'est pas réductible à ses modalités d'inertie. Il faut sans doute voir là une filiation avec une solide tradition d'épistémologie historique, Bachelard, Canguilhem, que vous qualifiez, à juste titre, d'épistémologie de la résistance. Pour paraphraser Canguilhem, on pourrait dire que la science sociale n'est pas le pléonasme de l'expérience sociale. Voir sur ce point les développements de Bourdieu, Passeron et Chamboredon dans Le métier de sociologue, qui est un livre extrêmement marqué donc, par Bachelard et Canguilhem. En objectivant les pratiques, c'est-à-dire en les constituant en objet d'étude, le sociologue réfléchit cet acte d'objectivation des pratiques, il le dédouble en réfléchissant précisément sa propre science. Il fait la science de sa science, il indique les savants à faire de même, c'est le titre d'ailleurs d'un de ses cours au Collège de France, « Science de la science et réflexivité ». En un sens, il produit l'idée de l'idée de son travail, selon le modèle spinoziste. Savoir, c'est savoir que l'on sait. C'est en même temps savoir que l'on sait, en même temps que l'on sait. En faisant donc la théorie de sa propre théorie, ou en réfléchissant son point de vue de savant, et en réfléchissant du même coup la distance qu'il entretient par rapport à son objet. Ce faisant donc, il institue une distance qui se réfléchit elle-même comme telle, et il produit des ruptures épistémologique, des ruptures réfléchies et délicates à instituer, à distinguer, dites-vous, des fausses ruptures scolastiques qui, précisément, faute d'objectiver la distance, produisent ce que vous appelez des coupures qui ne permettent plus de penser la rencontre avec le social. Hein, distinguer rupture et coupure. Peut-être pourrez-vous préciser d'ailleurs cette distinction rupture-coupure et le contexte dans lequel elle s'inscrit. Je pense par exemple à la notion de coupure épistémologique dans les travaux d'Althusser. Et est-ce que vous voyez peut-être un rapport polémique de Bourdieu à cet égard?
Je ne crois pas que ce soit vraiment dans cette perspective-là, en tout cas, que moi j'ai utilisé la distinction des deux termes. Il me semble que ce qui est visé à travers cette distinction, c'est plutôt une manière d'interpréter les grands paradigmes, puisque on retient souvent de Bourdieu sa critique de l'objectivisme et sa critique de l'individualisme. Ce qui me semble intéressant dans ces deux types de critiques, c'est qu'elles mettent en évidence toutes deux, de manière symétrique, ce que c'est que le prolongement de la rupture dans une coupure, précisément. Et la coupure, elle interdit de penser une forme possible de comportement ou de conduite en instaurant une séparation insurmontable entre ce qui est posé comme une sorte de détermination de l'action individuelle et ce qui apparaît comme son effet. Juste un exemple pour illustrer un tout petit peu mon propos. Lorsque Pierre Bourdieu, de manière très polémique, critique l'anthropologie structurale de Lévi-Strauss, ou d'une façon encore plus générale, un certain type de marxisme, il leur reproche finalement d'avoir érigé en quelque sorte une conception relativement métaphysique du social qui est douée de toutes les vertus de mise en mouvement des éléments qui composent ce social, mais qui ne permet pas de penser la manière dont on passe justement du social déterminant aux individus qui sont agis. Et entre les deux, eh bien, il y a une coupure, c'est-à-dire proprement quelque chose qui est insurmontable et par la pensée, et donc évidemment, de ce point de vue-là, la théorie échoue en quelque sorte à rendre compte de ce qu'elle s'efforce de décrire. Ce qui ne veut pas dire que la rupture épistémologique ne soit pas une condition nécessaire. Et c'est bien là toute la distinction et toute l'importance de la double réflexivité chez Bourdieu, c'est que le second moment de la réflexivité est posé comme quelque chose qui va permettre, par la prise de conscience de la nature du rapport que l'on instaure à son objet, d'éviter de transformer la rupture en coupure. Donc il y a ce qu'il appelle encore, et là aussi tout à fait influencé par l'héritage de Canguilhem et de Bachelard, la vigilance épistémologique, notamment dans ce texte de 68 sur le métier du sociologue, qui est comme ce qui va justement permettre de contrôler, hein, d'avoir un recul réflexif contrôlé sur sa pratique de savant. Et cette réflexivité contrôlée, elle n'est pas le fait de l'individu isolé, du savant isolé, elle est le fait de la place du savant dans une communauté épistémique, dans une communauté de savants. Parce que ça, c'est un point tout à fait important qu'il faut peut-être juste mentionner, c'est que, au fond, cette épistémologie des pratiques sociales de connaissance, elle est adossée à une théorie sociale de la communauté des savants. Parce que justement, connaître, c'est pas simplement un rapport isolé de l'individu à son objet, c'est un rapport social. Et c'est un rapport social qui se définit d'abord par l'institution et la capacité à instituer une distance entre soi en tant qu'observateur, en tant que spectateur, et ce que je regarde, ce que je contemple. Et au fond, s'il y a aussi cette image aussi transversale et aussi récurrente dans la sociologie de Bourdieu du point de vue de la perspective, eh bien c'est que tout simplement, la connaissance, c'est comme la perspective, c'est l'objet d'une invention et ça suppose un étayage qui est social de part en part et pour lequel il faut évidemment prendre conscience de cet étayage. Donc je dirais que le passage de la rupture à la coupure, c'est plus une manière de désigner une forme d'aporie qui est propre à des postures théoriques qui ne parviennent pas finalement à penser autrement que dans les termes d'une certaine détermination de l'individu par le tout ou du tout par l'individu, dans le cas de l'individualisme méthodologique, et qui donc échoue finalement à rendre compte des conditions pratiques de l'action. Donc voilà, je pense que c'est plutôt dans cette perspective-là que je me suis permis d'utiliser ce champ sémantique extrêmement connoté, j'en conviens.
Donc vous montrez ensuite donc, que cette épistémologie de la résistance des faits sociaux aux représentations intellectualistes qu'on s'en fait renvoie, vous l'avez indiqué d'ailleurs, à une filiation avec Durkheim. Et on peut penser effectivement à l'injonction des règles de la méthode sociologique de traiter les faits sociaux comme des choses en tant qu'ils ne sont pas donc isomorphes à nos représentations. Bourdieu ne se contente pas, ceci dit, de refaire du Durkheim, même s'il reprend effectivement certains critères d'identification du fait social, extériorité, contrainte, généralité, qui attestent, comme vous l'avez dit, justement, de la discontinuité du social par rapport aux agents. Mais Bourdieu ne pense pas, me semble-t-il, pour elle-même, l'idée d'une force sui generis du social, portée par une conscience collective, ou pour une solidarité donc, du tout social, incommensurable à la somme de ses parties. Alors certes, chez Durkheim, la consistance, irréductible sui generis du social ne l'empêche pas de se rendre présent en personne aux individus, comme l'ont récemment montré les travaux de Bruno Carsanti. Mais Bourdieu reprend la question de Durkheim, de la discontinuité, qui reprend cette question par le bas, au ras des pratiques, précisément, qui, analysée avec la bonne distance, ni trop près, ni en position de surplomb, font voir ce qui, dans une conduite individuelle, échappe précisément au strictement individuel. La relecture donc de Bourdieu par Durkheim, telle que vous la proposez, est une relecture par la pratique, où la pratique vaut donc comme principe de lisibilité de la discontinuité, comme lieu de pertinence et de validité où puisse s'attester le fait de la discontinuité lui-même, et où puisse s'attester partant la thèse ontologique d'une force du social. Alors j'aurais quelques questions donc à vous poser sur ce rapport entre Bourdieu et Durkheim. Première question donc, peut-être que je les pose à la suite.
Et puis, oui. Oui.
Première question donc, en insistant sur cette question de la discontinuité, c'est-à-dire de la force contraignante du social par rapport aux individus, quelle place faites-vous, si tant est que ça a une place, au concept durkheimien de solidarité dans la sociologie de Bourdieu, si tant est que c'est un sens pour Bourdieu. Deuxième question, n'est-on pas amené à distinguer malgré tout, dans ce rapprochement justement entre Durkheim et Bourdieu, deux concepts de force? D'une part, la force comme effervescence collective, comme vecteur de solidarité et d'attachement des individus aux normes du groupe, renvoyant au moment fort où une société prend, selon l'expression de Marcel Mauss. C'est-à-dire une force pleinement positive, une force dont l'agentivité serait un vecteur de continuité pour le social. Et d'autre part, la force précisément comme rapport de force, comme rapport dissymétrique, inégalitaire, comme rapport potentiellement conflictuel, qui pourrait nous renvoyer pour le coup au modèle marxien des contradictions qui minent une société. La force du coup comme indice d'une négativité au cœur du social. Est-ce que donc ces distinctions entre deux modes d'être de la force, l'emprise et le rapport, induit deux types d'ambitions sociologiques, je reprends la formule de Christian Laval, deux types d'ambitions sociologiques selon qu'on insiste sur la positivité du tout social et de ses, ou de ses contradictions internes. Ou dit autrement, la discontinuité donc, que vous invoquez donc, dans la lecture croisée entre Durkheim et Bourdieu, la discontinuité est un concept qui permet aussi de penser, d'un point de vue durkheimien, les contradictions au cœur du social, ou ne permettent-elles de penser que des différenciations internes? Comment comprendriez-vous, par exemple, la division du travail chez Durkheim et chez Bourdieu? Est-ce que c'est le même phénomène auquel on aurait affaire? Et troisième donc, question sur ce rapport entre Durkheim et Bourdieu. Vous montrez dans le quatrième chapitre que Bourdieu pense l'articulation entre le caractère régulier des pratiques et leur caractère explicitement normatif. Dès lors qu'on se place à hauteur d'intelligibilité des pratiques, on saisit leur régularité implicite, où la rencontre des agents avec les règles fonctionne largement au flou, à l'implicite. Mais certaines de ces régularités se voient explicitées et réfléchies dans des processus d'officialisation, de délégation, par lesquels un groupe se représente à lui-même. Par le truchement, notamment, de porte-parole, de mandataire, voire, dans le cas de l'enquête ethnologique, d'informateurs, ceux qui sont justement les porte-parole mandatés du groupe. Or, chez Durkheim, au moins dans De la division du travail social, il y a comme un privilège épistémologique donné au droit, au règlement, et plus largement aux normes officielles pour permettre justement de penser cette rencontre avec le social. Pourquoi ? Parce que le droit est en lui-même un fait social qui exerce une contrainte sur les individus et qui permet donc aux sociologues de disposer d'un outil d'objectivation du social à la mesure du social, d'expliquer le social par le social, à la différence par exemple de l'outil statistique qui permet de dégager des irrégularités, des constances, mais qui, comme artefact de l'enquêteur ou du chercheur lui-même, demeure en un sens extérieur à la réalité étudiée. Ne pensez-vous pas donc qu'en distinguant l'implicite de l'explicite, la régularité de la norme, comme en un sens de plan d'intelligibilité des pratiques, et en insistant, comme vous le montrez, sur les paralogismes ontologiques que peuvent susciter les stratégies donc, d'officialisation, qui font être ce qu'elles énoncent dans les groupes, ne pensez-vous pas que Bourdieu met en un sens à mal ce privilège accordé par Durkheim au droit, précisément en montrant la discontinuité entre le caractère donc, implicite des pratiques et leur caractère explicite, officialisé par le truchement donc, des porte-paroles autorisées?
Bien. Voilà un programme tout à fait considérable. Alors, je vais essayer de répondre aux trois points que vous soulevez. Alors, d'abord, sur le premier point qui consiste à essayer de voir dans quelle mesure il y aurait une compatibilité ou non entre l'analyse de Pierre Bourdieu en termes de discontinuité et le concept durkheimien de solidarité. Alors, je pense que, effectivement, j'aurais tendance à dire que cet aspect de la théorie durkheimienne, de la typologie des solidarités et de ce qu'elle permet de penser du point de vue du fonctionnement du rapport individu-société, n'est peut-être pas la partie la plus pertinente pour analyser en quelque sorte les rapports possibles entre Bourdieu et Durkheim. Je ne pense pas que ce concept soit un concept qui fasse l'objet d'une reprise sous une forme ou sous une autre par Bourdieu, parce que tout simplement, évidemment, et je passe du coup de la première question à la deuxième question, il y a un déplacement dans la manière qu'il a de définir le concept de force et l'usage qu'il en fait dans sa propre sociologie. Donc, juste pour terminer sur ce premier point, il ne me semble pas qu'on trouve dans la sociologie de Bourdieu, en tout cas dans la vision du monde social de Bourdieu, quelque chose qui puisse s'apparenter de loin ou de près à une théorie générale du lien social dont les formes pourraient emprunter la forme solidarité organique ou mécanique. Tout simplement parce que je crois que les questions qui sont posées sur ce plan ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors qu'il y ait possiblement deux concepts de force dans la vision, dans la théorie sociale de Bourdieu, ça me semble tout à fait juste. Je dirais qu'il y a d'abord un concept général de force qui, là, pour le coup, permet de penser vraiment le rapprochement ou le retour à Durkheim. Un retour à Durkheim qui ne se fait pas comme ça, qui est un retour médiatisé par une certaine lecture de l'anthropologie structurale. Parce que même si les rapports entre Pierre Bourdieu et Lévi-Strauss sont des rapports critiques, je crois qu'on peut dire sans trop d'injustice que sa théorie des champs est une forme de structuralisme localisé ou régionalisé. Qu'il y a à travers la conceptualisation de l'espace social en termes de champ, une volonté de décrire des formes d'irrégularité qui sont propres à un espace donné, à l'intérieur duquel peut s'exercer à distance la force. Donc je dirais que ce retour de Pierre Bourdieu à Durkheim se fait via le structuralisme, et donc ce n'est pas un retour qui se fait simplement à l'identique. Mais, me semble-t-il, ce concept général de force, encore une fois, je le répète, me semble-t-il, a une signification ontologique, puisqu'elle permet de penser la nature du social. Mais il est clair qu'on n'est plus dans la représentation que l'on trouve, par exemple, dans les formes élémentaires de la vie religieuse, où c'est l'effervescence, comme vous le disiez très justement, du social qui se manifeste positivement comme forme de solidarité à travers l'exubérance de la force. C'est plutôt, et c'est en ce sens qu'il y a un autre usage du concept de force chez Pierre Bourdieu, c'est plutôt la manière de rendre compte des effets concrets de cette force dans des espaces localisés qui va devenir un objectif tout à fait considérable de sa description sociologique. C'est la raison pour laquelle, progressivement, le concept de champ prend une importance de plus en plus grande. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va permettre de penser en plus petit ce qui était pensé peut-être par Durkheim en tout grand. Et donc, de rendre opératoire cette catégorie à travers la notion de champ. Donc, il me semble que de ce point de vue-là, je suis tout à fait d'accord pour reconnaître qu'il y a une plurivocité de cette catégorie de force et que les usages qui en sont faits sont différenciés en fonction du plan d'analyse dans lequel on se situe. Sur le plan ontologique, je dirais que le rapprochement est beaucoup plus net entre Bourdieu et Durkheim. Sur le plan méthodologique et descriptif, le recours au concept de force, me semble-t-il, va se modéliser selon la forme de la domination, etc., etc. Et donc s'inscrit tout de suite dans un espace localisé, et où il s'agit de proposer une description concrète, empirique, des manifestations de cette force. Alors, sur la troisième question, qui porte cette fois-ci sur l'implicite, l'explicite, la régularité, la norme, je dirais qu'on a encore affaire à une autre manifestation de la force et donc à un autre usage du concept de force. Et sur ce point, je voudrais juste dire, puisque vous avez fait allusion à la notion de porte-parole et à la notion de constitution de groupe, que ce que Bourdieu appelle « officialisation », c'est évidemment l'idée que toutes les régularités ne deviennent pas des normes. Ou plus précisément, toutes les régularités ne deviennent pas des normes qui s'imposent avec un certain succès auprès d'autres groupes ou auprès d'autres parties de l'espace social. Que donc le processus d'officialisation implique, d'une certaine manière, cette fameuse imposition progressive de ce qui peut être une norme localisée pour devenir une norme beaucoup plus générale. Et donc ici, la modalité sous laquelle la force va se décliner, c'est celle de l'imposition et des luttes de classement. Et donc de ce point de vue-là, effectivement, on rentre en quelque sorte dans un espace conflictuel où les groupes se constituant entrent eux-mêmes dans des rapports conflictuels, dans des rapports de force, pour le dire de façon un peu plus triviale. Et certains vont parvenir, parce qu'ils ont des ressources différenciées, à imposer une vision du monde et peut-être aussi les normes qui vont avec cette vision du monde. Donc je crois qu'on a effectivement ici toute une série de différenciations possibles, à la fois de la définition du concept et de ses usages, mais qui, me semble-t-il, est tout à fait cohérente avec le parti pris général et ontologique du projet de Pierre Bourdieu.
Alors, vous montrez donc également dans votre ouvrage que cette rencontre avec le social, donc Bourdieu évoque, a souvent été manquée parce que la raison théorique s'empêtre dans des antinomies, au sens de Kant, qui l'empêche d'instituer la juste distance, le juste point de vue qui aurait pu permettre la rencontre. Vous rappelez ainsi que toute l'importance pour Bourdieu de produire une critique de la raison théorique. Et vous rappelez que c'est effectivement le titre de la première partie du sens pratique. C'est-à-dire de produire une critique qui fasse voir les antinomies dans lesquelles tombe la raison, dès lors qu'elle veut penser le social, essentiellement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'objectivisme, non sous lequel Bourdieu range surtout le structuralisme, et le subjectivisme auquel il renvoie, vous l'avez indiqué, l'individualisme méthodologique, mais également la phénoménologie sartrienne. Deux positions à ses yeux abusives sur le social, qui sont renvoyées dos à dos, dans la mesure où Aimé connaissent le fait de la discontinuité comme telle, qu'elle réduise à la continuité intentionnelle d'un projet ou d'une raison calculatoire, dans le cas du subjectivisme, ou qu'elle dissolve dans la combinatoire d'une structure, dans le cas de l'objectivisme. Le sens pratique, ouvrage donc important de Bourdieu, propose bien une critique de ces deux positions comme antinomiques, ce qui induit un dispositif réflexif critique dont vous montrez certains prolongements possibles avec le kantisme. Vous évoquez notamment donc les travaux récents d'Antoine Grandjean justement sur ces questions, qui a essayé donc de redéployer un nouveau motif de la réflexivité chez Kant à travers l'idée du philosophé kantien. On pourrait se demander s'il n'y a pas une opération analogue du point de vue du sociologue et laquelle ça pourrait être. Il me semble néanmoins que par rapport donc, à ce dispositif effectivement proposé dans le sens pratique, Bourdieu a mobilisé une approche légèrement différente dans l'esquisse d'une théorie de la pratique, où le dispositif réflexif me paraissait alors calqué sur la théorie spinoziste des genres de connaissances. Le subjectivisme était présenté comme le premier genre de connaissances, celui des agents ordinaires eux-mêmes en un sens, dont la phénoménologie pouvait rendre compte. L'objectivisme comme le second genre de connaissances, celui du savant qui introduit la rupture, et, terme que Bourdieu semble abandonner ensuite, un troisième genre de connaissance qu'il appelle la praxéologie, théorie des pratiques, proprement dite. La question se posait alors d'une dialectique, d'un rapport dialectique de continuité et de distanciation entre ces trois genres de connaissances, qui permettait précisément l'élaboration du troisième. Pensez-vous qu'il y a une inflexion entre l'esquisse d'une théorie de la pratique et le sens pratique sur cette question, qu'on serait passé d'un d'une réflexivité de type spinoziste sur les genres de connaissances a un motif plutôt qu'ancien, plutôt critique, voire, comme vous le soulignez aussi à plusieurs endroits, un motif sceptique? Ou pensez-vous au contraire que, en un sens, il y a un même projet d'ensemble de Bourdieu dans ces deux textes?
Alors, je dirais que ce qui fait problème et en même temps ce qui semble secondaire, c'est le passage d'une connaissance ou d'un type de connaissance à l'autre, ou d'un genre de connaissance à l'autre, si on respecte effectivement la présentation dans le texte de 1972, l'esquisse d'une théorie de la pratique. D'une certaine façon, quand on reprend la formulation plus académique aussi, puisque je crois que ce qui est assez intéressant de constater dans l'esquisse, c'est qu'il y a une urgence du texte qui se trouve rédigée dans la deuxième partie de l'œuvre, et où la présentation d'ailleurs de ces différents motifs, du subjectivisme à l'objectivisme à la praxéologie, est beaucoup moins délimitée que dans le sens pratique, et beaucoup moins exposée de façon académique. Parce que ce qui me semble changer entre les deux textes, c'est que dans le sens pratique, il y a une présentation académique qui, pour le coup, fait plus penser effectivement à la présentation des conditions de possibilité de la connaissance telle qu'on pourrait la trouver chez le camp de la critique de la raison pure. Il me semble que, quelle que soit la virulence des critiques qui sont adressées par Bourdieu à ces différents types de connaissances, si on conserve encore l'appellation spinoziste, il y a quelque chose comme une positivité dans ces moments. C'est-à-dire qu'au fond, le subjectivisme, tout comme l'objectivisme, apparaissent bien comme quelque chose qui parvient à prendre acte d'une certaine vérité de ce qui est connu. Et que donc, de ce point de vue-là, on peut évidemment penser que la sociologie des pratiques apparaisse comme un troisième terme. En même temps, il me semble qu'il faut se méfier de cette présentation un peu dialectique, et que, d'une certaine façon, l'objectif, en tout cas c'est comme ça que moi je lis le sens pratique, l'objectif de cette reprise académique, c'est quand même bien d'insister sur ce qui, dans ces différentes manières d'aborder l'objet social, rend impossible la juste saisie de ce qui caractérise l'agent social dans ses conduites, dans le monde social. Donc c'est un moment négatif. C'est un moment négatif, c'est ce qui fait que cette dimension spéculative me semble, d'une certaine façon, assez sceptique.
J'aurais donc un dernier point, peut-être. Donc, vous montrez que la force, en un sens, est aussi un concept relationnel qui permet d'instituer une nouvelle manière donc, de comparer entre elles les pratiques, et en particulier les cultures également, enjeu crucial des sciences humaines, où là, effectivement, l'importance du structuralisme est fondamentale, puisque, en un sens, il s'agit d'un comparatisme qui fasse voir les différences en tant que telles. Où, là, pour le coup, la démarche lévi-straussienne a eu des effets tout à fait centraux, je vous montrer sur Bourdieu. Non, toutefois, sans un infléchissement considérable, puisqu'il ne s'agit plus de faire apparaître des différences réductibles à un jeu d'opposition, d'inversion, ou de permutations logiques entre des positions interchangeables au sein d'une structure, mais des différences qui valent en même temps comme des principes de différenciation, de hiérarchisation et de classement, comme Bourdieu le montre notamment dans la distinction à propos des écarts distinctifs entre les goûts, légitimes, moyens, populaires, etc. Se distinguer, ce n'est donc pas simplement faire montre d'érudition et d'esprit de clocher dans une sorte de course à la spéculation classificatoire avec le voisin, comme c'était le cas donc, dans la pensée sauvage de Lévi-Strauss, par exemple. C'est en même temps se classer au sein d'un système, de classement hiérarchisé qui fonctionne à la discontinuité. D'où l'écart de Bourdieu par rapport à l'objectivisme structuraliste et au modèle issu de la linguistique saussurienne de l'institution pure qui le soutient, c'est-à-dire le modèle d'une institution purement arbitraire, qui modèle l'institution du signe. Bourdieu a pourtant déclaré dans l'un de ses travaux ethnologiques, à propos de l'un de ses travaux ethnologiques, son enquête sur les structures symboliques d'opposition dans la maison traditionnelle kabyle, un très beau texte qui s'appelle « La maison et le monde renversé », qu'on trouve dans l'esquisse d'une théorie de la pratique et qui est reprise ensuite dans le sens pratique, que c'était son dernier texte de structuraliste heureux. Alors qu'est-ce que c'est qu'un structuraliste heureux? Est-ce que c'est bénéficier d'une position d'observation privilégiée et détachée sur le social, qui permet au moins idéalement de l'appréhender de face, de manière synoptique, uno intuitu, comme un tableau d'opposition, comme un tableau de transformation logique? Et est-ce que du coup la sociologie à hauteur d'intelligibilité des pratiques, qui ne peut avoir accès au social en un sens que par le discontinu, que de biais, de point de vue qui se reconnaît lui-même comme étant un point de vue biaisé, est-ce que cette sociologie débouche sur un structuralisme malheureux, une conscience malheureuse justement du savant, la position de savant sur, par rapport à son objet? Et en un sens, est-ce que vous ne pensez pas que dans ce dispositif, dans ce passage d'un structuralisme heureux à un potentiel structuralisme malheureux, il y a pas, enfin, l'idée ne serait pas justement, ne tiendrait pas la, au sens que Bourdieu donne à la notion d'arbitraire par rapport à l'usage justement qui était celui en vigueur dans le structuralisme, donc hérité de la linguistique saussurienne. L'idée donc de l'institution pure d'un signe, par lui-même immotivé, insignifiant, qui ne fait sens que dans ses relations différentielles avec d'autres signes, alors que chez Bourdieu, on aurait un arbitraire pensé plutôt comme facticité, discontinuité sociale, qui est converti et qui est euphémisé en nécessité sociale ou en justification sociale d'exister. C'est-à-dire un arbitraire qui, en un sens, prend acte de comme, la discontinuité, comme vous le dites, au sein du social, et des hiérarchies au sein du social. Est-ce que là, il n'y a pas véritablement donc, un motif d'écart au structuralisme qui tiendrait cette idée-là?
C'est une question assez difficile. Je ne suis pas sûr de pouvoir y répondre. Ce que je vais dire dans un premier temps pour essayer d'y répondre, c'est ceci, c'est que vous avez tout à fait raison de rappeler cette remarque de Bourdieu à propos de ses études d'ethnologie kabyle et de ce structuralisme heureux. Alors, peut-être faut-il rappeler pour des éléments de contexte que c'est aussi dans ce moment-là que Pierre Bourdieu a entrepris, hein, parallèlement à ce travail, une enquête sur sa propre histoire, si je puis dire, objectivée, médiée par une enquête sur le Béarn et sur le régime matrimonial et les mariages en pays Béarn. Et il dit, là aussi dans la préface du Sens pratique, de façon tout à fait remarquable, que ce parallélisme entre l'enquête en pays kabyle et l'enquête en pays Béarn est quelque chose qui a participé de cette espèce de conversion ontologique du regard qui lui permet de prendre conscience pour la première fois de façon aussi explicite de la nécessité de ce regard sur sa propre pratique de savant. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là que toute une partie de la théorie de la double objectivation commence à prendre naissance. Donc je dirais que d'une certaine façon, il y avait probablement une sorte de naïveté, entre guillemets, hein, de naïveté épistémologique, qui consistait à reproduire une théorie structuraliste qui, par certains côtés, ne posait pas cette question de la qualification du regard que pouvait détenir le sociologue ou l'anthropologue sur son objet. Alors ça fait partie de quelques-unes des objections qui sont adressées par Pierre Bourdieu à Lévi-Strauss. C'est pas la seule, évidemment, mais il me semble que c'est ce point, en tout cas ce point un peu circonstanciel, hein, de la rencontre entre deux types d'enquêtes qui favorise pour le coup l'exigence méthodologique et épistémologique d'une réflexivité sur sa propre pratique, qui fait qu'il y a un moment de désenchantement, hein, qui est lié à ce point. Donc ça, c'est le premier élément de réponse que je donnerai assez volontiers à la question que vous me posez. Alors après, sur le problème de l'arbitraire, ça me semble une question assez difficile. Ce qui est sûr, c'est que, et là, c'est un point qui me paraît caractériser, là, pour le coup, les décisions théoriques que prend Bourdieu à propos de la manière qu'il a de rendre compte du social, où il dit qu'au fond, la seule chose qui ne soit pas arbitraire, c'est l'existence de l'arbitraire. Tout est arbitraire. Et c'est dans cette espèce de postulation générale d'une forme généralisée d'arbitraire qui va pouvoir déployer sa théorie de la force et sa théorie des rapports sociaux. Donc, mais là, on est dans une autre discussion, me semble-t-il, qui concerne sa vision du monde social, telle qu'elle est en quelque sorte exprimée à travers cette description qui est quand même une description du monde en concurrence, où la différence devient l'occasion d'une distribution de ressources inégales, de rapports de force, de rapports de domination, de violence, etc., etc. Voilà ce que je pourrais dire dans l'immédiat.
Merci beaucoup pour...